France Inter.
Aujourd'hui, la grande préhistoire des femmes, racontée par
Anne Augereau, préhistorienne à l'INRAP.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Il n'y a pas d'archives ou de voix enregistrées, pourtant elles sont là depuis le début, dans la pénombre des grottes, sur les plateaux balayés par les vents glaciaires, autour des foyers. Les femmes ont traversé toute la préhistoire sans jamais disparaître. Leur histoire n'a pas été écrite, elle doit être retrouvée patiemment dans les os, les outils, les parures, les sépultures, dans cette poussière de traces où les archéologues apprennent à lire des vies entières. Longtemps, on les a imaginées immobiles, silencieuses, cantonnées à des rôles dictés par nos propres représentations modernes. Mais la préhistoire n'est pas un miroir de nos fantasmes, c'est un territoire d'enquête, fragile et exigeant, où chaque segment matériel oblige à la prudence. Car comprendre la place des femmes dans ces sociétés anciennes ne consiste pas à projeter des idéaux contemporains vers le passé, c'est accepter l'incertitude, la nuance, la complexité des rapports humains sur des dizaines de millénaires. Et c'est précisément cette complexité qui rend l'histoire passionnante. Explorer la préhistoire des femmes, ça n'est pas seulement combler un oubli, c'est interroger les fondations même de nos sociétés, quand apparaissent les inégalités, comment se construisent les rôles sociaux, quelle continuité relie ces communautés lointaines au monde d'aujourd'hui. À travers les vestiges matériels, c'est une autre généalogie de l'humanité qui se dessine, une histoire où les femmes cessent d'être des silhouettes en arrière-plan pour redevenir des actrices à part entière de l'aventure humaine. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Voici la sépulture de la Dame du Cavillon, qui avait été appelée autrefois l'homme de menton, parce que les os sont très robustes et on pensait que c'était un homme. Mais en fait, c'était pas un homme, c'est une femme costaud, une matrone. Mon épouse, Marie-Noëlle Delhommelet, en dégageant la sépulture qui était conservée au musée de l'homme, s'est aperçue que l'ossillac avait une grande cavité très élargie et que c'était une femme.
La voix d'Henri Delhommelet, préhistorien, c'était en 2021 dans le documentaire Lady Sapiens de Thomas Sirotto. Bonjour Anne Augereau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. La sépulture de cette Dame du Cavillon exhumée en 1872 avec le crâne recouvert de plus de 300 coquilles et de dents de cerf. C'est un vestige très marquant dans cette histoire des femmes de la préhistoire.
Alors c'est un vestige marquant parce qu'effectivement elle a été décrite, abordée de multiples fois. Et c'est aussi cette femme qui sert parfois à projeter nos fantasmes, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la nature des relations entre les hommes et les femmes à la préhistoire, avec notamment, puisqu'elle était très parée, qu'elle avait beaucoup d'objets avec elle, avec notamment l'idée que cette femme ait pu être un égal des hommes, c'est-à-dire qu'elle ait pu chasser, qu'elle ait pu également faire la guerre, etc., etc., parce qu'elle était particulièrement, d'après les vestiges qu'on a retrouvés, parce qu'elle pourrait être un personnage particulier dans la société paléolithique.
En tout cas, pendant longtemps, on n'a même pas pu imaginer qu'elle a pu être une femme,
oui.
Qu'elle avait pu être une femme, justement.
Tout à fait. Mais on se basait, les méthodes de détermination étaient moins fines à l'époque, détermination du sexe, et du coup, on se basait beaucoup sur la robusticité des os. Et effectivement, c'est une femme qui est plutôt costaud, comme le disait Henri Delhommelet à l'instant.
Pourquoi la question du genre en préhistoire n'est pas un sujet anecdotique, mais une vraie interrogation justement pour comprendre nos sociétés?
Alors, c'est important parce que ça permet de rechercher d'où vient la domination masculine, les relations de genre entre les hommes et les femmes, l'oppression des femmes aussi. Ça sert à s'interroger sur la profondeur dans le temps de ces caractères qui caractérisent nos sociétés encore aujourd'hui.
Donc, c'est vraiment pour éclairer ce qui se passe aujourd'hui,
l'intérêt d'étudier ces questions? C'est à des fins de connaissance, ouais. Ça c'est évident, on doit savoir comment vivaient, enfin on doit essayer en tout cas de savoir comment vivaient nos ancêtres, et parmi eux les hommes et les femmes, mais c'est aussi une manière de connaître, enfin cette connaissance peut servir aussi au combat actuel, notamment ouais. sur l'égalité entre les sexes.
Est-ce que cette démarche qui est la vôtre, Anne Augereau, part d'une expérience personnelle dans le monde académique tout simplement ?
Tout à fait, mais je pense qu'on en est tous là. La préhistoire et les préhistoriens ne sont pas complètement des purs esprits, et leurs histoires, la société qui les entoure, influencent évidemment la manière dont ils abordent les sociétés anciennes. Mais il faut essayer de s'en affranchir le plus possible, notamment en se plongeant dans les données archéologiques et en essayant de comprendre ce qu'elles peuvent nous dire sur ces sociétés anciennes, en essayant de ne pas trop projeter nos fantasmes.
Ce que j'entendais dans ma question, c'était aussi sur votre expérience personnelle au sein même du réseau des archéologues, en réalité, et la place des femmes.
Hein. Alors, la place des femmes, elle a été en tout cas, elle a été traitée depuis un certain temps, notamment par des archéologues américaines, des archéologues d'Europe du Nord. Et effectivement, il y a eu des enquêtes qui ont démontré que les femmes n'ont pas la même place que les hommes au sein de la profession archéologique. Elles ont moins de postes à responsabilité, elles interviennent moins dans les grandes revues scientifiques, elles ont moins d'articles elles ont rédigé moins d'articles. Et puis voilà, donc c'est véritablement, et cette situation perdure encore.
Il y a encore une marginalisation, on veut en
parler. Alors, marginalisation, peut-être pas, mais en tout cas, parmi les postes à responsabilité en archéologie, ce sont quand même souvent des hommes qui les occupent, ouais. plus que des femmes.
Donc, il y a aussi un enjeu à ce niveau-là, vous, en tant que scientifique.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que s'intéresser aux femmes du passé, c'est aussi forcément s'intéresser aux femmes du présent, et notamment, moi, puisque je suis archéologue, aux femmes archéologues, et à leur place dans la société des archéologues.
Ouais, donc cette recherche archéologique, elle peut devenir aussi un outil pour penser le présent aussi.
Tout à fait.
À travers les profondeurs de l'histoire.
Ouais. Hein. Penser le présent à travers les profondeurs de l'histoire, c'est tout à fait ça, effectivement.
Vous insistez sur la nécessité d'une méthode rigoureuse. Bah, là, on parle à la scientifique, ce qui paraît assez normal. Pourquoi c'est crucial dans ce champ de recherche-là en particulier ?
Alors, c'est crucial dans tous les champs de recherche. Ça l'est peut-être encore plus pour la préhistoire, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a beaucoup de tendances, comme il y a très peu de données sur la préhistoire, que ce sont principalement des traces un peu évanescentes, des traces d'habitat très difficiles à interpréter, des foyers, des outils en silex, des os, etc.
Évidemment, il n'y a pas d'écrit.
Voilà, il n'y a pas d'écrit du tout. Et donc, on a tendance... le risque, c'est effectivement de surinterpréter des données archéologiques dans un sens qui nous arrange, qui correspond à nos manières de penser actuelles. Et il faut véritablement s'en affranchir si l'on veut avoir des informations fiables sur la préhistoire. Histoire. Et pour cela, il faut effectivement se poser un certain nombre de questions et se donner les moyens d'y répondre en recherchant dans les données archéologiques ce qui pourrait correspondre à ces questions. Et notamment, si je peux continuer sur cette lancée-là, notamment, moi je me suis posé deux questions. La première, c'est est-ce que la préhistoire la plus ancienne, c'est-à-dire le paléolithique, est caractérisée par une égalité entre les sexes. Mmh. On le voit souvent, ça, dans la littérature. On a tendance à imaginer que dans les périodes les plus anciennes, il n'y avait pas de différence entre les deux sexes. Et puis, la deuxième question...
Donc ça, c'est... juste petite parenthèse, ça nous emmène jusqu'à quelle période ? Alors, vous dites la période la plus ancienne de la préhistoire.
Moi, celle que j'ai traitée, c'est 300 000 avant notre ère. Enfin, 300 000 ans, il y a 300 000 ans.
Donc c'est l'histoire d'Homo sapiens, ça,
c'est l'histoire d'Homo sapiens, mais aussi en tenant, en intégrant, puisque j'ai travaillé sur l'Europe, Néandertal.
Mm-hmm. Et deuxième question donc, que vous posez, seconde
Alors,
question.
Oui, la deuxième question, c'est est-ce que c'est au moment de l'émergence de l'agriculture et de l'élevage, c'est-à-dire au moment de l'émergence du mode de vie néolithique.
Donc là, on est à 10 000 ans à peu près.
Voilà, on est à peu près à 10 000 ans. Est-ce que c'est à ce moment-là que la condition des femmes a changé? Est-ce que c'est à ce moment-là que l'oppression des hommes s'est mise en place? Et donc, j'ai voulu explorer ces deux questions dans les données archéologiques.
Et donc, spoiler, on peut déjà donner la réponse.
Alors, spoiler, on peut donner la réponse. Disons qu'il y a un certain nombre d'indices qui montrent que sur le plan de la division sexuelle du travail, qui est vraiment un élément fort de la domination masculine, parce qu'il s'agit de ça, rechercher les traces de la domination masculine, s'il y en a et comment elle se manifeste. Donc, est-ce que quand on fait ces recherches-là, est-ce qu'il y a des traces qui permettent de dire qu'il y a eu une domination masculine?
À travers la répartition des tâches, par exemple, c'est
ça ? À travers la répartition des tâches. Et j'ai beaucoup creusé cette question-là. Mm-hmm. Et c'est vrai que si on considère que la manipulation des armes les plus létales est donc une division du travail qui mettrait d'un côté les hommes qui font la guerre et qui vont à la chasse, et de l'autre côté les femmes qui font autre chose, eh bien dans le temps long de la préhistoire, il semblerait bien que la manipulation des armes les plus létales soit une caractéristique masculine. Il y a des indices qui le montrent. Alors, en préhistoire, on n'est jamais sûr de rien. Mmh. On a des faisceaux d'indices. Mais là, les indices convergent pour envisager cette question-là comme ça.
Votre livre prend aussi ses distances avec certains récits féministes récents au sujet de la préhistoire. Oui. Pourquoi c'était nécessaire, selon vous? Parce qu'on est tombé dans un autre excès?
Alors, on est tombé dans un autre excès qui est en fait une continuité de tout ce qui s'est dit avant notre époque, avant le temps présent. Il y a eu un certain nombre d'écrits qui ont envisagé un matriarcat primitif. Mmh. C'est tombé un petit peu en désuétude. Et puis, il y a eu aussi le fait de voir les femmes préhistoriques comme étant les bonnes de service, c'est-à-dire au fond de la grotte, et comme dit Marilène Patou-Matisse, de balayer la grotte.
Ouais.
Sauf qu'il
n'y
avait pas de balai. Mais bon. Et donc, du coup, ça, c'était un excès dans un sens. Et puis, plus récemment, on a aussi envisagé la femme préhistorique comme une working woman qui tient la dragée et autres aux hommes, qui ont autant de responsabilités que les hommes, qui font tout comme les hommes. Et je pense qu'on projetait dans cette image-là des désirs qu'on a pour nos sociétés actuelles en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc ça ne veut pas dire que les choses sont... Enfin, qu'il ne faut pas du tout envisager les choses comme ça, mais en tout cas, il faut se donner les moyens de les vérifier.
Donc c'est-à-dire qu'il faut éviter de tomber dans le récit militant ou idéologique?
Alors, il faut éviter de tomber dans le récit militant ou idéologique, mais il faut aussi éviter de tomber dans des récits qui se prétendent ni militants ni idéologiques, mais qui n'arrivent pas à s'affranchir de cette manière de penser la préhistoire.
Donc c'est quoi la bonne boussole finalement? C'est précisément les vestiges archéologiques eux-mêmes?
Ce sont les vestiges...
Et ce travail sur les traces du passé?
Oui, c'est vraiment les vestiges archéologiques eux-mêmes qui doivent parler. Alors il faut évidemment avoir des questions à poser, c'est ça qui est important. Et l'une des questions, comme je le disais tout à l'heure, c'est à quel moment est-ce qu'on perçoit des traces de la domination masculine et de l'oppression des femmes dans les vestiges archéologiques.
Pourquoi la figure de la déesse mère est aussi un exemple emblématique de certaines dérives dans les interprétations précisément?
Alors, la déesse mère, c'est une construction qui est fondée sur des données archéologiques biaisées, surinterprétées, disparates.
Dans quel contexte on parle de la déesse mère? Juste pour le resituer aussi dans le temps.
On Alors, déjà, il y a eu au 19e siècle, mais c'est pas les, évidemment, c'est pas le discours le plus récent. Mais plus récemment, il y a une archéologue états-unienne qui s'appelle Maria Gimbutas, qui a beaucoup développé cette idée de la déesse mère à partir d'une iconographie qu'elle a recueillie aux quatre coins de l'Europe, qui est néolithique, mais qui est assez disparate. Mmh. Et elle voit dans cette iconographie, dans les vases, dans les dessins sur les vases, dans les petites statuettes aussi, qui sont effectivement souvent féminines, des expressions d'une religion fondée sur la mère et le matriarcat, en fait.
Et donc, il faut être prudent avec ce type d'interprétation.
Il faut tout à fait être prudent avec ce type d'approche, parce que, bon, déjà, elle a mis ensemble des choses qui étaient un petit peu disparates et qui n'avaient pas grand-chose à faire ensemble. Mmh. Et puis, elle a surinterprété les données. C'est pas parce qu'il y a des petites figurines féminines qu'on a forcément une religion fondée sur la mère, la déesse mère.
On voit qu'il y a donc débat au sein même de la profession, au sein même des scientifiques, et que l'objet, en tout cas, de votre démarche, vous, c'est un petit peu de remettre les pendules à l'heure, si je comprends bien, à nos jours. Oui. On parle donc de cette préhistoire des femmes avec vous. Vous êtes notre invité cet après-midi dans la Terre au Carré, et puis vous allez répondre, bien sûr, comme tous les jours, en direct, aux messages des auditeurs et auditrices qui nous rejoignent sur la page de la Terre au Carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
Le grand phénomène qui va se produire un jour, c'est la découverte de la céramique.
La marmite.
À partir du moment où on va avoir découvert la marmite, un grand nombre de fêtes vont se produire. D'abord, il faudra protéger le feu qui est sous cette marmite. Pour protéger ce feu, on va construire une cabane. À partir du moment où il y a le feu dans une cabane, comme on ne possède pas d'allumettes ni de moyens très efficaces de réallumer le feu, eh bien, c'est la femme qui va être chargée de cette fonction très domestique. On peut dire, sans grande crainte de se tromper, que c'est à partir de ce moment-là que le véritable esclavage de la femme va commencer.
La femme en cuisine à la préhistoire, c'était dans la voix d'un préhistorien, Henri Hugo. C'était en 1972, dans l'émission Aujourd'hui, Madame. À nos jours, une petite réaction à ce que vous venez d'entendre. Votre commentaire.
Oui, alors les données sur lesquelles ce monsieur se base sont peut-être un peu anciennes. C'est-à-dire qu'on sait comment allumer le feu à la préhistoire et dès la préhistoire la plus ancienne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, est-ce que c'était les femmes qui avaient en charge l'allumage du feu ? Il n'y a aucun élément qui permet de le dire, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc voilà, c'est... Et puis la cuisine, pourquoi pas ? On peut effectivement, si on calque la manière dont sont organisées les sociétés observées par l'ethnologie, on peut effectivement envisager que les femmes préhistoriques avaient aussi en charge la cuisine. Mais il y a très peu d'éléments qui permettent de le dire, de toute façon.
Mais pendant longtemps, il était acquis que les femmes forcément étaient
tout
au fourneau. Que les hommes étaient à la chasse.
Voilà, en gros c'est ça. Jusqu'à très récemment, on pensait que les femmes étaient au fourneau et les hommes à la chasse.
Anne Augereau, vous qui publiez une préhistoire des femmes aux éditions de La Découverte, vous affirmiez justement que la domination masculine apparaît très tôt, vous le disiez tout à l'heure dans l'histoire humaine, dès le paléolithique moyen. Quels sont les éléments matériels suffisamment solides précisément qui permettent de soutenir une telle affirmation ?
Alors, il y en a tout un ensemble. Le premier, c'est que ce sont les hommes qui ont des déformations osseuses au niveau du bras droit, c'est-à-dire le bras principal. Ça peut être le gauche, mais c'est toujours, presque toujours le bras droit. Des déformations osseuses qui correspondent, qui sont compatibles avec le lancer de sagaie ou avec l'exercice du tir à l'arc ou avec le maniement de la hache polie.
Ouais.
Donc, ce sont exclusivement les hommes qui ont ces déformations osseuses et les femmes n'ont pas celles-ci. Elles en ont d'autres, mais elles ont d'autres types d'activités qui dénotent d'autres types d'activités. Donc c'est un premier élément et on peut en tirer comme conclusion que si les choses sont comme elles sont, effectivement ce sont plutôt les hommes qui vont manipuler dès la préhistoire assez ancienne les armes les plus létales. Tir à l'arc, sagaie, et puis hache polie, parce que la hache polie ne sert pas qu'à abattre des arbres et à travailler
les
bois.
Et ça, vous dites qu'aucun squelette féminin n'a pu le démontrer.
Alors ça, pour ce qui en a été... On a, comment dirais-je... En préhistoire, on n'a jamais de certitude absolue, on a des tendances. Mmh. Et la tendance, c'est qu'effectivement, et c'est une tendance de fond, que ce sont les hommes qui ont ces déformations-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas quelques-unes qui étaient observées sur les femmes, mais ce n'est pas l'essentiel, en tout cas, de ce type de...
D'accord, parce que tout à l'heure, vous avez dit, on n'en a pas du tout trouvé chez les femmes. Donc, c'était juste pour temporiser un peu vos propos.
Je temporise, oui.
Voilà. La division sexuelle du travail, elle est visible à partir de quand ? Parce que on parlait d'Homo sapiens tout à l'heure, vous avez aussi évoqué le Néandertal. Mmh. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer déjà chez les Néandertaliens une division sexuée du travail ?
Alors, on peut l'envisager parce que, là encore, ce sont plutôt les hommes qui ont ces déformations osseuses qui peuvent correspondre au maniement de sagaie, qu'elle soit poussée ou lancée. Hein. Pour Néandertal, on n'a pas cette distinction très claire entre les gestes. On a cet aspect-là, et les femmes ont, au contraire, d'autres types de déformations osseuses qui attestent de travaux bimanuels.
Ouais, ça veut dire quoi, par exemple ?
Alors, on a beaucoup de mal à le caractériser pour Néandertal, ça c'est certain. On ne sait pas trop quelles seraient les activités qui pourraient avoir provoqué ce type de déformation. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, la bimanualité, si toutefois on peut inventer ce terme, elle va se poursuivre dans toute la préhistoire jusqu'à la fin du néolithique. Il y a vraiment une tendance de fond avec des femmes qui ont des activités plutôt bimanuelles et des hommes des activités plutôt unimanuelles.
Alors, si on veut être juste nuancé, parce que vous le dites bien aussi dans votre livre, ça ne veut pas dire non plus que les femmes étaient totalement exclues de certaines activités, mais il y avait quand même une spécialisation partielle de certaines tâches, ça hein.
Alors, pour ce qui est de la chasse, parce que c'est une activité dont on a beaucoup parlé, pour Néandertal, par exemple, Néandertal chasse de gros qui peuvent être des éléphants, des mammouths, des buffles, etc. Et Néandertal, souvent, il met à mort, en tout cas, c'est comme ça que les sites documentent ses activités. Ces animaux, ces gros animaux sont poussés vers des pièges où ensuite ils sont abattus par les chasseurs. Mmh. Et on peut penser qu'effectivement, le rabattage pouvait se faire par des femmes et des enfants, en tout cas des jeunes, et que la mise à mort aurait été réalisée par les hommes qui attendaient les animaux dans ce piège.
Donc ça veut bien dire que les femmes n'étaient pas forcément exclues de la chasse.
Tout à fait.
Mais avec certaines peut-être spécialisations.
Alors elles ont donc peut-être une fonction de rabattage. Et puis plus à mesure que l'on poursuit dans la préhistoire plus récente, il est possible aussi que les femmes aient plutôt chassé de petits animaux, en les piégeant, en les assommant, essentiellement. Et ces petits animaux sont toujours présents en petite quantité parmi les restes de faune que l'on retrouve sur les sites archéologiques, de la faune consommée, des animaux consommés et utilisés. Donc de la faune de petits animaux qui vient compléter de nombreux ossements qui sont au contraire de grands animaux qui ont pu être, eux, plutôt chassés par les hommes.
Anne Augereau, quand on fait ce bilan finalement des activités des hommes ou des femmes à la préhistoire, qu'est-ce qu'on peut en conclure finalement aussi sur la domination masculine ? Le fait que précisément ces hommes aient une activité particulière de chasse sur des gros gibiers par exemple, quel est le lien avec la domination masculine ?
Alors, la domination masculine, déjà, elle n'est pas forcément violente. Mais le fait que ce soit les hommes qui aient le monopole de la manipulation des armes les plus létales leur donne un avantage sur le reste de la société, donc sur les femmes et les enfants. Donc ce sont eux qui ont ce monopole-là, ce sont eux qui peuvent tuer, qu'il s'agisse d'animaux ou d'êtres humains. Et les femmes n'ont pas, a priori, cette capacité-là. Donc, et ça, le monopole des armes létales, c'est véritablement un marqueur de la domination masculine, qui peut effectivement être variable d'une population à une autre. C'est-à-dire qu'il y a des populations populations observées en ethnologie qui, par exemple, flèchent leurs femmes au moment du mariage.
Flèchent leurs femmes, c'est-à-dire
oui, absolument. Leur tirent une flèche dans la cuisse. Ça fait partie de la cérémonie du mariage.
Charmant.
Donc c'est charmant, oui. Mais il y a d'autres populations où ce sont toujours les hommes qui ont le monopole des armes létales, mais où les femmes n'ont pas à subir de violences telles que celle-ci, en tout cas.
Concernant la mobilité, là aussi c'est assez intéressant parce que vous évoquez les os des membres inférieurs qui racontent justement des choses sur la mobilité des hommes ou des femmes.
Oui, oui.
Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ?
Alors, là encore, c'est vraiment un trait qui est assez répandu dans toute la préhistoire. Les hommes ont des déformations osseuses sur les jambes qui sont plus marquées que chez les femmes et qui dénotent de déplacements à pied plus nombreux, plus intenses que ce qu'on peut constater sur les spécimens féminins.
Donc sur des marches plus longues, a priori ?
Plus longues, oui. Tout à fait. Ils marchent plus et ils ont parfois une musculature, hein, puisque sur les os, on arrive à avoir les attaches musculaires, une musculature des jambes extrêmement puissante.
Donc là aussi, ça raconte quelque chose de la répartition des activités
alors, ça peut...
autour d'un campement, par
tout
exemple.
Tout à fait. Les hommes sont plutôt dans une démarche d'explorer de manière plus lointaine les milieux qui les entourent, alors que les femmes, même si elles ne sont pas cantonnées à la cuisine, à la grotte ou à la tente, ont sans doute moins d'occasions de se déplacer, même si elles se déplacent aussi. Hein. Ce n'est pas non plus des femmes qui restent assises. Elles se déplacent, elles sont extrêmement musclées et extrêmement actives, mais moins de marches, et en tout cas des marches dans d'autres, pour d'autres types d'activités que les hommes.
Donc là aussi de la nuance en toute chose. Anne Augereau, on va se retrouver dans un instant pour la suite et la fin de cette discussion sur la diversité là aussi des activités, des situations. Vous l'abordez dans ce livre, Une préhistoire des femmes, et c'est aux éditions de La Découverte. Et vous répondrez aux questions, aux messages sur franceinter.fr, la page de la Terre au Carré bien sûr, vous en avez maintenant l'habitude, et vos messages vocaux avec l'appli Radio France.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
À partir de ces traces, les chercheurs peuvent déduire la pointure moyenne de l'homme préhistorique, du 42, mais aussi ses habitudes, son organisation sociale. Et que dire de la femme de Néandertal ?
On a toujours tendance à croire que ce sont les hommes qui vont à la chasse et puis les femmes qui restent avec les enfants. On n'en sait strictement rien. C'est pareil, on parle toujours de tailleurs, de silex. On ne parle jamais de tailleuses de silex.
Voilà, ce scientifique s'appelle Dominique Cliquet, interrogé en 2022 sur France 2, sur le site de Rozelle, c'est dans la Manche. Vous le connaissez, Anne Augereau, Dominique Cliquet. Effectivement, il va un peu plus loin que vous, il dit on n'en savait absolument rien. Alors que vous, vous nous dites que si, on en sait quand même des choses avec les vestiges archéologiques.
Alors, on sait des choses, effectivement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'est jamais sûr de rien, mais on peut, comme en préhistoire en tout cas, parce qu'on n'a que des traces matérielles, mais on peut quand même inférer un certain nombre de choses à partir des données archéologiques et qui convergent pour aller vers telle ou telle hypothèse. Et l'hypothèse, c'est qu'effectivement, ce sont plutôt les hommes qui chassent et qui vont, probablement en tout cas, qui chassent et qui vont à la guerre. Et les femmes ont d'autres activités qui sont plutôt liées, par exemple, pour les périodes les plus récentes, qui sont plutôt liées au travail du cuir, des peaux, de la céramique, etc., etc. Et aussi, pour le néolithique, au travail de mouture. Et notamment, ce sont ces modifications osseuses qui sont sur les deux bras qui permettent d'envisager que les femmes ont pu moudre le grain récolté à l'aide de molettes et de meules manuelles avec les deux bras.
Activité très physique et que l'on retrouve dans les squelettes. Hein.
Tout à fait.
C'est ce que
c'est
vous nous dites.
Hein. Oui.
Les os racontent cette histoire-là.
Les os racontent une histoire de déformation osseuse et nous, on dit peut-être que c'est dû effectivement au travail sur des meules à l'aide d'une molette à main.
Dominique Cliquet parlait de la taille du silex, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de savoir si effectivement les femmes aussi taillaient des pierres ou pas ?
Alors déjà, est-ce que les hommes taillaient ? Il est probable que les hommes taillaient. On a par exemple dans un certain nombre de sites, celui de Pincevent en Seine-et-Marne, on a une organisation du travail autour du foyer, avec notamment à un endroit des restes de fabrication d'armature de sagaie en os, mais aussi en silex, et c'est concentré à un endroit de la tente. Et dans d'autres endroits autour du foyer, on a d'autres activités, notamment des petites aiguilles en os qui peuvent indiquer un travail de couture. Et puis aussi, on a des restes de taille, mais qui sont pas liés à la fabrication des armatures de sagaie. Et du coup, on peut envisager que cette taille en question a été, en tout cas c'est l'hypothèse que formule un certain nombre de mes collègues, que cette taille a été mise en œuvre par des femmes pour répondre à leurs besoins techniques immédiats. Donc voilà, il y a...
Dans votre ouvrage, Une préhistoire des femmes, donc aux éditions de la Découverte, Anne Augereau, vous insistez beaucoup sur la variabilité des formes de domination masculine. Pourquoi c'est essentiel, justement, là aussi, d'être nuancé et d'en montrer une diversité, en tous les cas ?
Alors, pourquoi ? Parce que il a été démontré, pour le coup, il y a eu des enquêtes assez générales là-dessus, notamment celle de Christophe Darmanja sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs d'agriculteurs, eh bien cette domination masculine, elle existe partout, mais elle existe selon des intensités et des modalités tout à fait différentes. Je parlais tout à l'heure des maris qui viennent flécher les cuisses, une des cuisses de leur femme pour dire « elle est à moi ». Dans d'autres sociétés, il y a des relations entre les sexes qui sont quand même plus équilibrées et beaucoup moins violentes. Mais néanmoins, dans ces sociétés-là, c'est l'homme qui garde le monopole des armes létales et les capacités de négociation pour les affaires extérieures, la politique, etc.
Alors justement, est-ce que certaines sociétés ont quand même pu offrir aux femmes des espaces de pouvoir à la fois économiques ou symboliques plus importants ?
À la préhistoire, alors ça c'est extrêmement difficile d'aborder cette question-là, mais on peut essayer
d'y réfléchir, ouais.
Voilà. Notamment pour les périodes où il y a le plus de données, qui sont les périodes du néolithique, donc de la fin de la préhistoire, on voit apparaître des catégories d'individus qui se caractérisent par l'abondance du mobilier qu'ils ont avec eux dans leur tombe et qui est un mobilier de prestige. Et parmi eux, ce sont principalement des hommes, mais aussi on a quelques femmes. Et du coup, on peut penser que ces individus qui avaient aussi sans doute une certaine importance sociale, eh bien, ces groupes d'individus étaient composés d'hommes, mais également de femmes qui avaient de ce fait un statut plus élevé que le commun des mortels féminins ou masculins.
Et à quoi donc on peut le savoir ? Quels sont les indices
alors,
qui permettent de
le dire ?
On peut
le savoir. On peut en tout cas envisager l'hypothèse parce qu'on a à un moment donné une différenciation dans les tombes, dans l'importance du mobilier qui est associé aux défunts, aux hommes et femmes. Oui. Et il y a toujours, à un moment donné, une petite partie de la population dans les cimetières qui est extrêmement dotée en mobilier funéraire.
Anne Augereau, on passe aux questions car elles sont nombreuses pour vous. D'abord, une question sur la maternité. C'est Jean qui vous pose cette question à nos jours. Les nombreuses maternités que devaient subir les femmes au cours de leur vie expliquent-elles la place de la femme dans la société préhistorique ?
Alors, il est évident que la capacité de faire les enfants par les femmes a été remarquée dans toutes les sociétés de la Terre, qu'elles soient préhistoriques ou pas préhistoriques. Est-ce que la question c'était est-ce qu'elles avaient une place particulière ?
Oui. Exactement. Le fait d'avoir de nombreuses maternités, est-ce que ça leur donnait une place particulière
au sein
de la
société ? Une place particulière, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, mais je ne pense pas que le fait d'avoir des enfants et de nombreux enfants... Enfin, quoique, avoir de nombreux enfants peut effectivement caractériser un certain nombre de femmes parmi d'autres et du coup leur donner peut-être un statut particulier. Mais en préhistoire, on ne sait pas caractériser ça.
Allez, on écoute le message de Julien.
Bonjour Anne Augereau, Julien Truyot, spécialiste du Mésolithique. Du nord de l'Europe, je me permets d'ajouter une petite précision sur l'utilisation de l'arc et la flèche par certaines femmes à la fin de la préhistoire. On a découvert il y a maintenant 2 ans dans le cadre d'un projet européen sur le cimetière de Yuzhny Yelenyi Ostrov des preuves évidentes d'usage de l'arc chez une femme. Voilà, à bientôt.
Merci Julien pour votre message.
Oui, je suis au courant.
Mais pas nous alors, oui. Il faut nous en dire plus.
Donc, il y a effectivement... Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une partition générale entre les hommes à la chasse et puis les femmes à autre chose, on va dire. Mais il existe des sépultures de femmes avec des armes. Elles sont très peu nombreuses, mais elles existent néanmoins. Il s'agit absolument de femmes sans aucune équivoque. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a des femmes qui dérogent aux règles habituelles qui sont celles que je viens de dire et qui ont cette possibilité de travailler, enfin de manipuler les armes les plus létales et notamment l'arc et la flèche.
Et ça, on le sait ou pas? On a une idée, une hypothèse là-dessus?
Il y a les hypothèses, elles sont diverses, mais on peut effectivement envisager un troisième genre.
Un troisième genre?
Oui, un troisième genre. Quand il y a, c'est une chose qui a été observée dans différentes populations. Il existe soit des hommes, soit des femmes qui vivent et qui sont autorisés à vivre et à faire des activités propres au sexe opposé.
Donc il y a cette variabilité des identités qui est revendiquée comme telle au sein des sociétés?
Je ne sais pas si elle est revendiquée, mais en tout cas, il y a des individus qui se démarquent de l'ensemble de la population globale et qui ont, à l'évidence, effectué des travaux qui ne sont pas de leur sexe.
Chloé demande, est-ce qu'étudier les sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs peut être pertinent pour comprendre ces sociétés préhistoriques?
Oui, ça peut être pertinent pour avoir une idée de la manière dont fonctionnent les relations entre les hommes et les femmes et quelles sont leurs modalités matérielles. Parce que nous n'avons que des indices matériels et donc il faut essayer de comprendre en observant les sociétés actuelles, notamment de chasseurs-cueilleurs, comment la domination masculine va agir et quelles sont les choses matérielles qui se mettent en place pour qu'elles soient mises en œuvre.
Un message d'Arnaud pour vous, Anne Augereau.
Le partage des tâches dont vous parlez à partir du néolithique est-il forcément synonyme de domination masculine?
Alors, non. Donc là on est dans l'histoire proche, récente, on est à
10 000 ans. Plus récente, oui. La domination... Alors tout d'abord, encore une fois, de quel type de domination masculine on parle? Il y a des dominations masculines qui sont effectivement très coercitives et très violentes, et il y a des dominations masculines qui le sont beaucoup moins, et des sociétés où les relations entre les sexes sont beaucoup plus équilibrées. On peut effectivement envisager pour le néolithique que certaines sociétés ont pu fonctionner par des relations relativement équilibrées entre les sexes, mais en tout cas, le premier néolithique, le néolithique le plus ancien, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a une dégradation de la santé de toute la population, et en particulier des femmes. Et donc, elles n'ont pas la même alimentation, et du coup, ça peut participer de la domination masculine.
Allez, encore 3 questions très très vite. Mehdi demande, est-ce que le fait que les femmes sont celles qui donnent la vie pouvait leur donner aussi du pouvoir?
Ben elles ont, c'est rarement, lorsque l'on regarde nos sociétés actuelles et celles qui sont plus les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont été observées en ethno, oui et non, c'est-à-dire qu'elles ont la possibilité d'enfanter, ce qui n'est pas le cas des hommes évidemment, mais est-ce que ça leur donne un statut particulier? C'est pas toujours le cas.
Est-ce que la théorie d'une communauté, je ne vais pas dire indissociée, mais quasi indissociée, de l'homme et de la femme à cette période-là de l'histoire reste un bon récit? Merci.
Alors, c'était le message de Claire. Votre réponse très rapidement, Anne-Augereau.
Alors, le récit indissocié de l'homme et de la femme, mais évidemment, c'est quelque chose de... Il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes, ça c'est sûr, une complémentarité qui se met en œuvre à différentes étapes. Mmh. Mais je ne sais pas si c'est ça dont Claire parlait.
Eh bien, on va quand même terminer là-dessus. Oui. Malheureusement, Anne-Augereau, merci beaucoup d'être venue, en tout cas dans la Terre au Carré. Je renvoie sur votre ouvrage Une préhistoire des femmes, c'est aux éditions de La Découverte, ça vient de sortir. Merci à Elinor Thévenot qui a préparé ce dossier, Titouan Labarre à la technique, Jérôme Boulet qui réalisait cette émission et Lucie Sarfati qui s'occupe de la programmation et de la coordination de la Terre au Carré.